Comment reconnaître des huiles essentielles de qualité? Je crois qu'on me pose la question au moins une fois par semaine. Alors aujourd'hui, je te réponds en détail dans cet épisode. Bienvenue sur le podcast Métasensoriel, un espace qui allie science et spiritualité, conscience et subconscience, visible et invisible, afin de vous emmener à la conquête d'une vie pleine de sens. Ensemble, nous explorons toutes les dualités de l'univers qui nous poussent vers une meilleure connaissance de nous-mêmes, des autres et de notre environnement. Je m'appelle Aurélie, je suis bio-ingénieure de formation et fondatrice de l'aromacantisme. Scientifique de l'esprit et spirituelle de cœur, j'entremêle savoirs ancestraux et pratiques modernes pour vous reconnecter à l'univers de tous les possibles. Chaque semaine, je vous mets au défi d'affiner votre intuition pour mieux écouter, comprendre et ressentir les énergies de la nature. Installez-vous confortablement et profitons ensemble de ce nouvel épisode. La qualité des huiles essentielles, c'est clairement un sujet qui est fortement polémiqué. En guise d'introduction, je voudrais commencer par une petite anecdote. Fin 2021, j'ai enregistré un mini-cours d'initiation à l'aromacantisme. Peut-être que tu as eu l'occasion de le regarder. Il est maintenant disponible pour les personnes qui s'inscrivent à la liste d'attente de l'aromacantisme afin qu'ils puissent déjà s'initier un petit peu à l'aromacantisme en attendant que les portes réouvrent. Et dans ce mini-cours de 4 leçons, il y a une leçon spécialement dédiée à la qualité des huiles essentielles. C'est probablement la leçon qui est la plus longue parce que c'est un sujet qui me tient très fortement à cœur et que je trouve qu'il y a énormément de raccourcis à propos de la qualité des huiles essentielles. En parallèle à ça, bien sûr, au sein de l'aromacantisme, je parle aussi de la qualité des huiles essentielles et à chaque fois qu'il y a un nouveau membre qui rejoint notre communauté, je lui pose la question de savoir quels sont les fournisseurs que tu utilises. Parce qu'il faut savoir que l'aromacantisme est maintenant présent dans 16 pays différents. Et forcément, en fonction des pays où on se trouve, on va pouvoir avoir des fournisseurs locaux. Et moi, ça m'arrive, grâce à mes membres, de découvrir des fournisseurs que je ne connaissais pas. Il en existe des centaines et des centaines à travers le monde. Et fin 2023, j'ai fait un petit bilan des différents chiffres clés de la diversité qu'il y avait au sein de l'aromacantisme. Et j'ai découvert qu'au total, tous les membres confondus, les membres de l'aromacantisme se fournissaient chez une cinquantaine de fournisseurs différents. Et donc j'ai trouvé ça assez incroyable de me dire waouh, simplement au sein de notre communauté, on a déjà plus de 50 fournisseurs qui sont indirectement présents. Et tu le sais sans doute, je suis aussi un petit peu présente sur les réseaux sociaux, j'avoue je ne suis pas très très présente, mais je suis suffisamment présente que pour recevoir très régulièrement des messages de personnes qui me demandent, voilà, quel fournisseur est-ce que tu conseilles, qu'est-ce que tu penses de tel fournisseur en particulier. Et bien entendu, je reçois aussi des messages de conseillères en aromathérapie de plein de marques différentes qui me demandent si je ne voudrais pas être une ambassadrice pour leur marque. Et parfois, il y a une dynamique un petit peu moralisatrice derrière tout ça qui sous-entend que je devrais me positionner plus fortement sur les huiles essentielles ou les marques que je soutiens et celles que je désapprouve. Et je trouve ça souvent assez amusant parce qu'aujourd'hui, on parle du fait de respecter le choix des autres, on parle de l'inclusivité de toute personne, de toute culture, de toute forme. Et puis, quand il s'agit des huiles essentielles, c'est comme s'il y avait une grosse forme de racisme. Et j'ai donc fait une vidéo intitulée « Stop au racisme aromatique » et j'explique avec humour que, tous les membres confondus, l'aromacantisme utilise plus de 50 fournisseurs différents et que pour moi c'est vraiment important de rester ouvert au choix des uns et des autres. Et je rappelle qu'en fonction d'où on en est dans notre propre évolution et dans notre propre découverte avec les huiles essentielles et aussi en fonction de notre localisation, on peut être amené à choisir certains fournisseurs plutôt que d'autres. Et je dis aussi que ça m'attriste de voir que dans un domaine du bien-être, dans un domaine où on a envie vraiment de cultiver ces valeurs de liberté et d'équité, on puisse parfois être autant agressif les uns envers les autres, parce que j'ai déjà réellement vu de l'agressivité et du racisme dans ce domaine-là, en fonction du choix du fournisseur. Alors, bien entendu, quand on aborde un sujet comme ça, il faut être préparé à recevoir des messages de toutes sortes.
Et dans les commentaires, j'ai reçu des messages bien sympas, bien gentils, de gens qui approuvent ce que je dis. Mais en message privé, j'ai aussi reçu des messages de gens qui n'étaient pas forcément d'accord avec ce que je disais et qui trouvaient que je devrais mieux me positionner et que je devrais donner beaucoup plus d'éducation et d'informations sur comment choisir des huiles essentielles de qualité. Et à nouveau, ça m'a fait sourire parce qu'il ne faut pas oublier que les réseaux sociaux, c'est du contenu avec des petits visuels où, en général, on doit exprimer les choses en moins d'une minute, on doit écrire des petits textes très résumés, et pour moi, un sujet tel que la qualité des huiles essentielles, ça ne peut pas se résumer aussi rapidement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai un sujet entier dédié à ça dans l'initiation à l'aromacantisme. C'est pour moi un pilier de base et c'est quelque chose dont je parle depuis le lancement de l'aromacantisme, donc déjà des années bien avant d'avoir fait ce petit visuel sur Instagram. Et je me suis dit, ben, puisqu'il semble y avoir un tel attrait pour cette thématique qui est très polémiquée, pourquoi pas venir vous partager au sein du podcast l'audio associé à cette leçon qui est dans l'initiation à l'aromacantisme. Donc si jamais tu as envie d'écouter tout le cours sur l'aromacantisme avec les 4 leçons complètes, il y a une leçon aussi sur la méditation olfactive, il y a une leçon sur la psychoénergie de la bergamote et il y a une leçon sur comment utiliser les huiles essentielles dans les accompagnements pour pouvoir se démarquer. Donc si tu as envie de découvrir l'ensemble des leçons, tu peux tout simplement aller t'inscrire sur aromacantisme.com/certification et tu auras accès à tout. Donc ici, je vais vraiment te mettre à l'état brut la vidéo que j'avais enregistrée en 2021 sans la moindre censure. Comme ça, tu verras mon opinion sur la qualité des huiles essentielles. Et puis, à la fin de cet extrait, je te rajouterai un petit message complémentaire sur comment maintenir cette qualité des huiles essentielles chez toi. Parce que c'est pas tout d'acheter des huiles essentielles qui soient de qualité. Si on fait n'importe quoi avec elles en termes de conservation, forcément, elles vont perdre leur qualité. Donc je t'ajouterai un petit commentaire là-dessus juste à la fin de cet extrait. Je te souhaite une très belle écoute et surtout, n'hésite pas à venir me dire dans les commentaires de cet épisode ce que tu en penses, quels sont les fournisseurs que toi tu utilises et quels sont tes propres critères de qualité pour choisir tes huiles essentielles. Ah, on se retrouve pour discuter d'un autre sujet super important, mais aussi un petit peu délicat. Donc ça me tient à cœur de vraiment vous parler de la qualité, de la pureté des huiles essentielles. Il y a beaucoup de vérités différentes, on va dire, sur la pureté des huiles essentielles parce que on peut utiliser les huiles essentielles de plein de façons différentes. En fonction de l'utilisation, en fonction de nos valeurs, en fonction de notre situation, on va parfois être appelé par différentes formes, on va dire, de qualité. Et je pense que pour beaucoup de personnes, la pureté et l'approche et l'utilisation des huiles essentielles va être évolutive. Je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de monde qui rentrait dans le milieu des huiles essentielles à travers les do-it-yourself, des petits produits, on fait comme ci, comme ça. Et du coup, on va, dans cette approche au tout début, les gens vont être attirés par un peu tester un peu tout ce qu'ils trouvent et ils vont pas toujours être super pointueux sur la qualité. Et puis quand on évolue avec l'utilisation des huiles essentielles, on est de plus en plus appelé à cette rigueur, à cette pureté. Et puis un jour sur notre chemin, on croise des huiles essentielles vraiment d'une grande qualité. Et là, on a un peu ce wow, cet éveil aromatique, un peu comme l'éveil spirituel, mais l'éveil aromatique, où on se rend compte que, ah oui, en fait, ça, c'est des huiles essentielles d'une grande pureté. Là, j'ai pu sentir pour la première fois l'énergie des huiles essentielles, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Et c'est ça qu'on va se rendre compte qu'il y a des gens pour qui, parfois, l'énergie des huiles essentielles ou la psychoénergie, le psycho-émotionnel des huiles essentielles, ils comprennent pas, ils y croient pas trop, ils disent bah, c'est placebo, j'avais acheté cette synergie ou ce paquet-là, mais ça m'a rien fait, j'entends ça parfois. Et puis en fait, quand on discute, on se rend compte que c'est parce qu'ils ont pas eu vraiment des huiles essentielles d'une grande pureté ou d'une grande qualité pour pouvoir vraiment en avoir les bienfaits. C'est un peu comme boire un jus d'orange. Si on boit un jus d'orange frais, pressé, plein de vitamines, on va vraiment sentir ce bienfait sur notre santé, cette vitalité. Et puis si on prend un jus d'orange qui a été en boîte et qui va rester comme ça, dont on a enlevé tous les bienfaits, on le boit, mais au final, ça ne nous fait pas grand-chose. On n'a pas cette vitalité qui rentre en nous. Et c'est pareil pour les huiles essentielles.
Alors, comme je vous l'ai déjà dit, je pense, moi à la base, je suis ingénieure agronome spécialisée en milieu tropical. Et donc, j'ai vraiment travaillé du côté de l'agriculture. J'ai eu l'occasion de voir aussi ce qui se faisait dans les différentes formes de labels, aussi bien en Europe, mais aussi dans d'autres pays. J'ai aussi eu l'occasion de travailler pour un projet européen où on comparait des fermes dans le milieu conventionnel et dans le milieu du bio. Donc, je dirais que j'étais très intéressée à tout ça. J'étais aussi très, très sensible à ce qu'on appelle le greenwashing. Donc, c'est les entreprises ou les sociétés qui essayent de se dorer un peu leur image en mettant en avant certains bienfaits, certains programmes. Et à un moment donné, je dois vous avouer que ça m'a un peu déprimée parce que j'avais vraiment l'impression que c'était pas toujours très honnête, qu'on avait tendance à tromper un peu le consommateur et que malheureusement, il y a un peu un marché derrière tout ça qui parfois fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur pour deux raisons. Parce que c'est pas toujours aussi respectueux que ce qu'on croit de la nature. Et puis, ça fait mal au cœur aussi parce que y a des agriculteurs qui sont vraiment pris par passion pour leur métier, pour le respect de la nature et qui ont vraiment ces envies de mettre en place des labels ou en tout cas d'être reconnus pour leur métier, leur production de qualité. Et puis, on a d'autres, en fait, qui sont attirés juste par le gain et qui vont pas forcément bien faire les choses et qui vont chercher un peu tous les raccourcis pour tricher la qualité des produits. Et puis, il faut dire aussi la vérité, c'est que dans certaines situations, il y a des agriculteurs pour qui respecter tous ces critères qui sont contrôlés, qui parfois sont un peu absurdes dans certaines situations, c'est très contraignant. Et donc, c'est vraiment pas facile. Honnêtement, c'est vraiment pas facile d'arriver à trouver un juste équilibre entre le fait d'imposer des chartes qualité, de mettre des critères, et d'un autre côté, essayer de laisser à l'agriculteur faire son métier sans être tout le temps derrière lui en train de le contrôler, d'exiger, où l'agriculteur il passe son temps à remplir des cahiers des charges et faire plein de papiers. Et j'ai aussi des amis qui travaillent dans le contrôle du milieu bio. Et quand on entend ce qu'ils racontent parfois, ça fait un peu peur. Donc, qu'en est-il de tout ça par rapport aux huiles essentielles et par rapport aux différents labels que vous pouvez voir? Alors, il va y avoir évidemment le label bio. Donc, le label bio, ça indique qu'il y a une volonté de travailler avec des plantes dans une situation relativement naturelle. En tout cas, où on n'y met pas des produits chimiques selon une certaine législation, dans le sens où le bio des États-Unis n'est pas le même bio que l'Europe, n'est pas le même bio que l'Inde, et finalement, parfois on peut un peu s'inquiéter de la définition du bio des uns et des autres, des produits qui sont utilisés à la place, parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de produits, ça veut souvent dire qu'il y a d'autres produits qui sont considérés, eux, plus naturels. Donc voilà, ça c'est déjà une première chose qu'il faut avoir à l'esprit. Et il faut avoir aussi à l'esprit que quand on est avec des plantes sauvages, forcément on va pas avoir de critères bio par rapport à une plante sauvage. Donc moi, ma position par rapport à ça, ça a été de me dire que c'est clair que de manière générale, j'essaye de manger des aliments qui soient sains, qui soient produits dans mon jardin, auprès d'agriculteurs que je connais, dont j'ai confiance, parce que je sais qu'il y a des agriculteurs bio qui ne le font pas avec le cœur et qui essayent plutôt d'entourlouper le bazar et qui envoient des produits sur le marché qui sont pas du tout bio, même s'ils ont un label et qui vont peut-être être contrôlés. Ils seront peut-être exclus par après, mais entre le moment où ils sont exclus et contrôlés et le moment où ils ont produit leur aliment, il peut y avoir des contaminations. Donc, ma position par rapport à ça, ça a été toujours de regarder quelle est la sincérité du fournisseur. Dans le sens où, si je vois un fournisseur qui va vendre une huile essentielle de thym non bio à côté d'une huile essentielle de thym bio, là, je me dis en fait que le fournisseur, il joue sur tous les plateaux. En fait, il s'en fout. Il s'en fout complètement et il cherche juste à faire plaisir à ceux qui veulent du bio et faire plaisir à ceux qui veulent pas du bio. Donc lui-même n'a pas son propre alignement par rapport à une certaine qualité. Donc moi, pour moi, ça a toujours été un critère d'exclusion. Quand je voyais qu'un fournisseur d'huile essentielle n'avait pas cette rigueur, je préférais ne pas travailler avec lui. Ça a été une première chose. Alors, Le caractère bio, comme je vous l'ai dit, ça ne s'applique pas aux plantes sauvages. Donc là, il y a d'autres labels qu'on peut entendre parfois, tels que Progrès Nature, par exemple, où il y a cette volonté de travailler avec une certaine charte de qualité et de respect avec la nature qu'on va parfois pouvoir retrouver pour les huiles essentielles sauvages. Mais à nouveau, ce n'est pas présent partout. Et au final, le critère qui, pour moi, est le plus pertinent, le plus pointu pour vérifier la qualité des huiles essentielles, ça va être tout simplement de demander l'analyse chromatographique, donc l'analyse de la composition moléculaire. Pourquoi ? Parce qu'avec cette analyse, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans l'huile essentielle, on va voir sa composition. Et là, on va avoir une bonne idée. J'ai déjà eu une fois une huile essentielle soi-disant bio qui venait d'encens, qui venait d'Inde, et la composition moléculaire, elle était de 40%. Il y avait 40% des molécules qu'on connaissait, et le reste, il était indiqué molécule inconnue, et il n'y avait même pas de date sur l'analyse. Et donc, j'avais été un peu choquée de ce fournisseur, de me dire déjà comment, quelle honte d'oser envoyer un truc comme ça. Mais aussi de me dire, moi, je ne peux pas utiliser d'un point de vue thérapeutique ou même d'un point de vue d'accompagnement avec d'autres personnes, me dire que j'utilise une huile essentielle dont 60%, je ne sais même pas c'est quoi. Pour moi, ça, c'était inacceptable. Donc, d'avoir vraiment cette analyse où j'ai une connaissance de ce qu'il y a dans l'huile essentielle, c'est vraiment crucial. Alors, vous allez sans doute vous dire que il faut prendre des huiles essentielles qui sont classées comme 100% pures et naturelles. Sauf que là, je vous invite aussi à faire le petit exercice d'avoir vos huiles essentielles. Sur toutes les huiles essentielles, c'est une obligation. Il y a un numéro de lot et vous pouvez envoyer un mail au fournisseur avec votre numéro de lot et vous lui dites « Est-ce que tu peux m'envoyer, est-ce que vous pouvez m'envoyer le rapport ?» Et là, vous voyez tout de suite la réaction des fournisseurs. Il y en a qui vous envoient n'importe quoi, pas le rapport du tout que vous avez demandé, pourtant c'est assez clair. Une fois, j'avais demandé pour le patchouli qu'on m'envoie le rapport et la personne m'avait renvoyé leur certificat de bio de leurs huiles essentielles. Et je leur réponds, mais je ne vous ai pas demandé votre certificat de bio, je vous ai demandé l'analyse chromatographique de l'huile essentielle et voilà le numéro de lot. Et ils me disent, pourquoi est-ce qu'ils vous voulez ça ? Je la veux parce que c'est un droit. Donc déjà, quand vous avez des fournisseurs qui ne veulent pas vous donner l'information, c'est aussi pas normal. Donc, il y a des fournisseurs qui vont vous répondre parfois un peu de façon un peu plus compliquée. Puis, il y en a qui mettent les analyses directement sur leur site internet où vous pouvez aller voir de la vôtre ou ils ont des démonstrations d'analyse de l'eau disponibles sur leur site internet. Donc ça, c'est assez chouette aussi parce que au moins, il y a beaucoup plus de transparence. Donc, quand un fournisseur ose avoir de la transparence, c'est vachement mieux. Et en fait, vous allez vous rendre compte quand vous faites cet exercice-là, et je vous invite vraiment à le faire. Et si vous voulez, vous pouvez même, quand vous êtes au magasin, vous regardez certains flacons d'huile essentielle, vous pouvez très facilement prendre quelques photos de différents flacons, même si vous ne les achetez pas. Vous voyez les numéros en général à l'extérieur des flacons ou sur la boîte, et vous envoyez un petit mail avant. Si vous recherchez une huile essentielle que vous n'avez pas et que vous hésitez en votre fournisseur, un petit exercice, ça peut être ça. Ça peut être de demander au fournisseur... de prendre des photos, demander au fournisseur ses analyses, ou si vous avez un conseiller en aromathérapie avec lequel vous travaillez, vous lui demandez qu'il vous envoie une analyse d'une de ces huiles essentielles en lien avec ce que vous voulez faire. Comme ça, ça vous donnera une idée. Et dans ce rapport, en fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a des analyses pour des huiles essentielles qui sont dites 100% pures et naturelles, où quand on a l'analyse, en fait, il n'y a que 70%, donc 70 en français, ou 80%, ou 85%. Et comme je vous disais, j'ai déjà eu des analyses à 40, 60% des molécules qui sont identifiées. Et le reste n'est pas toujours identifié. Parfois, vous avez aussi des analyses à 95 ou même 100% en fonction de la qualité du laboratoire avec lequel vous travaillez. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on dit que ces huiles essentielles-là qu'on a qu'à 80%, par exemple, 100% naturelles ? Parce que le laboratoire part sur des bases de données relativement ancienne parfois, où ils partent du principe que si on a 80% de bon, alors on considère que c'est 100% bon. C'est un peu comme les examens à l'école, vous avez 80%, alors vous avez réussi. Celui qui réussit avec 100% ou celui qui réussit avec 70% on sait bien que c'est pas exactement le même élève. Il y en a un qui est un peu plus performant que l'autre. C'est un peu pareil avec les huiles essentielles. Dans le sens où, quand il y a, même si l'huile essentielle est dite 100%, ben, pour moi, il y a quand même un problème de se dire comment ça se fait que le laboratoire ne puisse pas me dire c'est quoi les autres 30%. Parce que si les autres 30% sont des molécules normales, classiques, connues dans les huiles essentielles, on devrait pouvoir les identifier. Et ça, ça peut être dû, par exemple, au fait que le laboratoire n'a pas suffisamment de techniques ou n'a pas suffisamment d'outils que pour pouvoir aller dans cette précision. Alors, ce qui va arriver aussi, c'est que vous allez parfois avoir des petits agriculteurs, des petits producteurs qui vont pas forcément pouvoir justement se payer un laboratoire très luxueux pour faire leurs analyses et qui vont avoir des petits rapports où on n'a pas tout, on n'a pas toutes les informations, mais qui travaillent avec le cœur et vous avez peut-être la chance d'aller visiter leurs installations et de vous dire que peut-être pour vous, ce n'est pas le plus important. Le plus important, ce sera d'avoir ce contact avec l'agriculteur, de savoir qu'il fait un travail avec le cœur et de vous dire qu'au final, s'il a eu un petit mélange dans ses distillations, pour vous, c'est pas le plus important. Donc, je dis ça dans le sens où c'est vraiment aussi une décision de cœur. Je connais des personnes qui, pour certaines de leurs huiles essentielles, travaillent avec certains fournisseurs parce qu'elles veulent avoir cette pureté, cette qualité. Surtout pour les huiles essentielles qui viennent des tropiques, où on ne sait jamais trop ce qu'on a, et qui, par contre, vont avoir un fournisseur à côté de chez eux, et elles se disent, là, je sais que j'ai pas le rapport à 100%, mais je connais bien cette personne, j'ai vraiment confiance en elle, j'ai confiance en ses infrastructures, et voilà, ça ne me pose pas un problème. Donc, il y a vraiment cette idée-là il y a cette décision-là, mais ce qui est important, c'est d'être vraiment conscient de ce que vous décidez, et aussi, en fonction de ce que vous décidez, d'adapter peut-être votre utilisation. Je pense notamment qu'il y a de plus en plus de personnes qui utilisent les huiles essentielles en ingestion. Pour moi, là, l'ingestion, il faut vraiment faire attention. Je ne pourrais pas imaginer dire à quelqu'un d'ingérer une huile essentielle dont on ne connaît la composition qu'à 60 ou qu'à 70%, par exemple, parce qu'il y a vraiment un impact directement au niveau du corps. Alors, donc, ça, c'était un peu pour vous donner un aperçu et pour vous dire vraiment, moi, mon critère de qualité vraiment le plus important, c'est d'avoir l'analyse chromato et de pouvoir bien connaître l'analyse chromato à 100%, sauf éventuellement où j'ai un contact privilégié avec l'agriculteur, avec le fournisseur, et je sais qu'il fait son travail d'une grande rigueur. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les huiles essentielles, je vous l'ai expliqué dans la vidéo avec la bergamote, elles peuvent être altérées de plein de façons. Il peut y avoir simplement qu'un agriculteur, il produit plein d'huiles essentielles, enfin un fournisseur produit plein d'huiles essentielles et il va mélanger les plantes il va y avoir des résidus en fait qui vont rester, peut-être il va aller trop vite ou il fait pas assez de nettoyage entre les deux et tout ça, enfin bref, il peut y avoir parfois des résidus qui restent. Il y en a aussi qui vont enlever certaines molécules pour différentes raisons parce que c'est plus intéressant de les vendre ailleurs sur le marché. Il y en a qui vont mélanger où on va par exemple avoir une huile essentielle précieuse et on vient y ajouter une autre huile essentielle qui est moins chère juste pour booster un peu les quantités, relever certaines odeurs. Donc ça, c'est des altérations qu'on retrouve aussi. Il peut y avoir aussi, par exemple, quand je pense à la mélisse, est une huile essentielle dont la plante va être très vite affectée en fait après la coupe, lors du transport jusqu'au moment de la distillation. Donc, si vous n'avez pas la garantie que l'endroit où la plante est produite et l'endroit où elle est destillée est relativement court et que c'est relativement proche, vous allez avoir une huile essentielle qui peut être altérée. Donc, il y a aussi l'altération dans le sens où il y a une perte de qualité parce que, par exemple, toutes les molécules qu'on voudrait voir ne sont pas là. Peut-être si la distillation a été faite vite et on n'a pas eu tout ce qu'on voudrait, par exemple. Ou parce que les plantes ont séché trop vite au soleil, on a voulu accélérer le séchage, imaginons, et à nouveau, on n'a pas la pureté qu'on veut avoir. Donc ça, c'est vraiment tous les critères, on va dire, purement pour le côté huile essentielle. Après, un autre aspect qui est super important, ça va être d'être dans cette relation de préservation, de contact avec l'environnement, pour ne pas qu'on vienne impacter l'environnement, impacter la survie des plantes. Il y a, je pense notamment par exemple à l'huile essentielle de bois de rose, qui est une plante en danger, en voie d'extinction, qui normalement on ne devrait plus produire son huile essentielle. Et il y a des personnes qui continuent à l'utiliser, qui continuent à la promouvoir. Et ça me fait un peu mal au cœur parce que je pense qu'on ne peut pas vraiment prendre soin de soi en détruisant autre chose. Et alors qu'on peut aller chercher d'autres huiles essentielles alternatives. Donc, il faut toujours se dire que c'est un peu comme, voilà, si tu coupes en arbre, plantes-en 2 ou plantes-en 10 ou plantes-en 20, de pouvoir se dire que quand on travaille avec les huiles essentielles, c'est chouette de savoir qu'il y a derrière un agriculteur ou une communauté qui vit de façon durable avec cette plante et qui n'est pas en train de la surexploiter, qui n'est pas en train de la détérioriser, et que les agriculteurs sont respectés pour leur travail, qui sont rémunérés à leur juste valeur. Donc tout ça, c'est des choses que vous allez pouvoir percevoir en regardant votre fournisseur, quels sont ses critères, quelle est sa charte éthique, qu'est-ce qu'il met en avant, et de le faire avec un peu de discernement pour vous assurer que c'est pas simplement du marketing et que c'est vraiment quelque chose qu'ils font avec le cœur, qu'il y a des vrais contacts qui sont là, qu'ils ont des vrais projets, qu'ils sont peut-être un peu impliqués aussi dans la recherche et qu'ils ont vraiment ce positionnement, comme je vous le disais au début. Donc voilà, à nouveau, c'était un peu long, mais c'est un sujet que je trouve assez sensible et qui est... où c'est un peu trop facile parfois de juste venir coller un label et de se dire « Ok, j'ai un label, je suis sève. » Ben en fait, pas toujours. Et malheureusement, il faut accepter de se dire qu'il y a des personnes qui font ça uniquement par intérêt de marketing ou de financier ou de greenwashing et que c'est pas toujours ce qu'ils pensent vraiment dans leur cœur. Mais il y a aussi des producteurs d'huile essentielle, des agriculteurs, des fournisseurs, des conseillers en aromathérapie qui sont passionnés par ce qu'ils font et qui le font avec beaucoup d'amour. Donc c'est aussi un peu un plaisir de pouvoir aller à la rencontre de toutes ces différentes personnes, de toutes ces différentes formes de collaboration avec la nature et avec les plantes aromatiques et de trouver celle qui résonne le plus avec vous. Voilà. Et si vous avez un fournisseur de cœur, vous pouvez m'envoyer un mail pour me l'indiquer. Comme ça, moi, peut-être, j'en découvrirai des nouveaux. Bye.
Et voilà, j'espère que maintenant ma position sur la qualité des huiles essentielles est plus claire. Alors j'avoue, je ne suis pas une personne stricte dans le sens où je ne conseille pas une seule marque de façon exclusive à utiliser et je n'interdis pas l'utilisation de certaines marques. Pour moi, évidemment, à titre personnel, bien sûr qu'il y a des marques avec lesquelles j'aime travailler et d'autres avec lesquelles je ne souhaite plus travailler parce que, comme je te le raconte dans l'épisode, une fois que j'ai été très déçue par le comportement de certaines marques ou par le fait que voilà, on n'a pas voulu me donner l'analyse chromato où j'ai obtenu des informations bizarres, forcément, je vais blacklister cette marque-là. Mais je trouve que c'est vraiment à chacun de pouvoir faire cet exercice personnel et aussi de pouvoir découvrir les fournisseurs de sa région, les agriculteurs qui l'entourent et de choisir le conseiller ou la conseillère avec lequel il aime véritablement travailler. Car au final, une huile essentielle, c'est pas simplement un flacon, c'est vraiment toute une chaîne d'approvisionnement et potentiellement toute une communauté avec laquelle on peut interagir lorsqu'on choisit de se fournir ses huiles essentielles auprès d'un conseiller en aromathérapie. Je voudrais t'ajouter un petit message supplémentaire sur le fait de conserver la qualité de tes huiles essentielles. Tu as sans doute déjà remarqué qu'une boîte d'aromathérapie, une boîte classique, en général c'est une boîte en bois avec des petits carrés où les huiles essentielles sont rangées. Les boîtes en bois sont vraiment appréciées parce qu'elles vont servir d'une certaine façon d'isolant thermique et le but en fait c'est que tes huiles essentielles ne subissent pas des gros chocs thermiques. Les huiles essentielles sont aussi stockées dans des flacons ambrés, foncés, parfois certains sont bleus, mais le but est toujours le même, c'est d'éviter en fait de mettre l'huile essentielle en contact avec les rayons solaires. Parce que quand les huiles essentielles sont soumises à des grands changements de température et exposées à la lumière, ça va potentiellement altérer les molécules. Donc à nouveau, tu peux avoir une huile essentielle de grande qualité à la base par le fournisseur, mais si la personne qui va te proposer ces huiles essentielles range toutes ces huiles essentielles dans une vitrine pleine de lumière, ce ne sera forcément pas idéal. Je me promenais l'autre jour sur le marché, il faisait très très chaud, climat australien, mode un peu canicule, et là, je passe devant une personne qui avait sa petite table, sa petite échoppe d'huile essentielle et toutes les huiles essentielles étaient 100% exposées au soleil. Le vendeur lui-même était en train de suer des gouttes de transpiration. Et je me suis dit, voilà, là, je n'achèterai jamais des huiles essentielles comme ça sur un marché parce que pour moi, une fois qu'elles ont été autant exposées à la chaleur et à la lumière, ce n'est pas une bonne idée. Je trouve qu'il aurait dû agencer son échoppe et proposer les choses de manière à vraiment préserver ses huiles essentielles. Ou peut-être éventuellement avoir des faux flacons de démonstration. J'ai déjà vu des gens qui faisaient ça, qui gardaient leurs flacons vides, qui mettaient une huile végétale dedans juste pour le paraître, et puis qui avaient en fait leurs vraies huiles essentielles en dessous, cachées à l'ombre. Et comme ça, quand une personne voulait une huile essentielle, ben, elles étaient attirées au départ simplement par le flacon, mais on lui disait, voilà, n'utilise pas ce flacon, c'est un flacon simplement de démonstration, on préserve les huiles essentielles à l'abri de la lumière pour la qualité. Donc il y a des petites astuces à faire, mais c'est une chose intéressante à regarder. Quand tu vas dans un magasin, si tu vois que les huiles essentielles sont mal stockées, mal rangées, dis-toi que ce n'est pas forcément une bonne chose pour la conservation sur le long terme de cette huile essentielle. Et de même, pour toi, lorsque tu as tes huiles essentielles et que tu les ranges chez toi, veille à les stocker correctement pour préserver leur qualité au fil du temps. Et garde à l'esprit aussi que si tu achètes une huile essentielle qui a été diluée dans de l'huile végétale, elle va s'altérer plus rapidement que l'huile essentielle qui est à l'état pur. Donc ça aussi, c'est quelque chose à garder en tête parce que je vois parfois, on dit « Ah, les huiles essentielles, elles n'ont pas de date de péremption, elles se gardent éternellement ou c'est comme un bon vin, elles vont s'améliorer avec le temps. » De manière générale, c'est vrai pour la plupart des huiles essentielles, si ce n'est que au niveau des agrumes, là, en général, on est avec une durée de vie plus courte de 2-3 ans puisqu'il y a une extraction des molécules par pression à froid, ce qui fait qu'on n'est pas seulement avec des molécules volatiles, mais aussi avec des molécules non volatiles qui peuvent s'oxyder plus rapidement. Tu l'auras donc compris, on ne peut pas résumer la qualité des huiles essentielles en un simple post sur Instagram, c'est pour ça que je voulais t'en parler en détail dans cet épisode de podcast. Et je me répète, soyons ouverts, respectons le choix des uns et des autres et acceptons que chaque personne peut être dans un processus de transition et d'évolution. Les choix des uns aujourd'hui ne seront pas forcément les choix des autres demain. Et c'est ça la beauté de travailler avec des huiles essentielles qui proviennent d'un monde vivant, du monde des plantes, c'est que c'est un monde qui évolue en permanence et qui nous permet à nous aussi d'évoluer. Et si tu as envie de découvrir le cours complet d'initiation à l'aromacantisme, tu peux le retrouver sur aromacantisme.com/certification. aromacantisme.com/certification. À très bientôt!